Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cryptographie avec Graham Steele, qui est le patron de CryptoSense. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Christophe Renard.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Graham, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter en introduction ?
Donc CryptoSense, c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans, après avoir bossé 5 ans au sein de INRIA, ici à Paris. Et tout le but de mes recherches à INRIA, c'était de créer des algorithmes capables de trouver des failles dans l'application de la cryptographie dans les vrais systèmes réels. Et puis j'ai créé la boîte pour commercialiser cette technologie et la déployer dans l'industrie.
Alors, dans la dernière étude du CLUSIF, menaces informatiques et pratiques de sécurité en France, on a d'ailleurs réalisé un épisode à ce sujet. Dans cette étude, lorsqu'on demande aux entreprises si elles utilisent de la cryptographie, on se rend compte que seulement 36% des entreprises se sentent concernées par la cryptographie. Alors, Graham, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, c'est exactement la même expérience que j'ai souvent eue. Une fois, je suis allé voir un CEO d'une entreprise française qui est siégé à San Francisco. J'ai demandé au CEO qu'est-ce qu'il pense de mon idée de ma société. Il a dit, ouais, c'est super, mais moi, je n'utilise pas la cryptographie. Mais en fait, il gère une infrastructure de serveurs cloud de haute disponibilité partout dans le monde. Donc, j'espère qu'il a bien au moins une petite autorisation pour les mots de passe ou les logins sur tout le parc infrastructure et le reste des choses. Donc, ce qu'on voit avec nos clients souvent, c'est qu'ils sont étonnés de voir le montant de cryptographie qui est embarqué dans leur application et dans leur infrastructure.
Enfin, il n'y a pas une montagne, il y a 1%. Mais c'est le 1% sans lequel tout le reste s'effondre et n'existerait pas.
Mais surtout, 100% des gens utilisent de la crypto. À partir du moment où tu as déjà été sur Google une fois, tu es en HTTPS, donc tu as de la crypto. Et tu as des problèmes de proxy qui doivent gérer le SSL, etc. Quoi. Dire qu'il n'y a que 30% des gens qui utilisent la crypto, c'est juste impossible.
Moi, je suis d'accord. 100% des gens utilisent la crypto, mais simplement, il n'y en a que 30% qui le savent.
Voilà.
À compter par tous les utilisateurs de téléphones mobiles.
Oui, déjà là, ouais.
Alors justement, Graham, selon toi, comment la crypto est perçue par le plus grand nombre de personnes ?
Je pense que l'idée reçue, c'est que la cryptographie, en fait, c'est un problème qui a été résolu, que nos brillants chercheurs dans les universités ont trouvé des bons algorithmes. Et maintenant, c'est le point fort de la sécurité informatique. On a plus à regarder ça. Mais la réalité, c'est que le déploiement, le vrai mise en œuvre de la cryptographie, c'est là où on trouve le problème. Les attaquants vont jamais casser un algorithme en trouvant une nouvelle faille dans AES ou une nouvelle façon de craquer RSA. Ils vont plutôt trouver une façon de contourner la cryptographie telle qu'elle a été mise en œuvre. Et c'est ce type de problème qu'on essaie à trouver chez CryptoSense.
Alors justement, quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer en utilisant de la crypto ?
Bon, ce sont les choses comme la génération des nombres aléatoires, la gestion des nonces, des valeurs qu'ils doivent utiliser une seule fois, la configuration des protocoles, surtout la gestion des clés cryptographiques. C'est souvent juste en trouvant la vraie valeur de la clé qu'un attaquant va contourner la crypto plutôt que autre chose. L'interaction entre les opérations cryptographiques, le mauvais choix de mots de chiffrement et signature. Donc il y a beaucoup de détails. Et la spécificité de la crypto, c'est que c'est fragile. Si j'ai une seule petite détail qui n'est pas correct, je peux tuer la sécurité que j'aurais dû avoir.
Tu n'as pas cité les générateurs de nombres aléatoires.
J'ai pas cité ça, j'aurais voulu le dire. Mais oui, c'est tout ça. Dans les générations aléatoires, on trouve beaucoup de problèmes.
Alors pourquoi c'est important d'avoir des nombres aléatoires en crypto ?
En fait, ça, partout dans la cryptographie, les nombres aléatoires sont utilisés. Le premier exemple, c'est la génération d'une clé. Si je vais utiliser une clé cryptographique, il faut que ça soit une valeur que personne d'autre peut deviner avant. Donc, il faut que le générateur aléatoire, c'est imprévisible, même si j'ai vu les clés qui ont été créées avant la clé que je vais utiliser. Il faut que c'est impossible computationnellement de prévoir la valeur de la clé. Mais puis, j'utilise les mêmes valeurs aléatoires un peu partout pour les aspects salt, blinding ou autres opérations un peu techniques qui fait que la cryptographie donne la vraie sécurité.
Alors, en ce qui concerne le management des clés, pourquoi c'est très complexe ?
Bon, c'est que le simple problème d'avoir une clé, c'est pas spécialement complexe. Et dans les papiers théoriques de cryptographie, on commence toujours en disant que voilà, il y a un Alice et un Bob, et Alice va échanger avec Bob, et tous les deux ont des clés privées bien stockées, il n'y a aucun problème. Mais la réalité, c'est que Alice et Bob se rencontrent pour la première fois. Comment ils vont partager une clé? Comment on va mettre à jour ces clés? Comment je vais stocker ces clés telles que si un audit, j'ai un backup de toutes mes clés pour les 5 dernières années pour être conforme avec une régulation, je ne sais pas quoi. Comment je vais être sûr que si je reçois un message, c'était vraiment le Bob avec lequel j'ai parlé l'autre jour qui a eu la bonne clé. Donc tous ces vrais problèmes de mise en œuvre de gestion de clés, c'est là qu'on trouve beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui essaient de régler ça avec des pièces de matériel spécifiques telles que les HSM ou les tokens. Mais là, même dans ces pièces de matériel, on trouve des bugs d'implémentation, les problèmes de configuration qui peuvent faire qu'on peut sortir une clé. Donc c'est une grosse cause problématique dans la mise en œuvre de la cryptographie qui est très peu étudiée par les académiques.
Alors en ce qui concerne les problématiques de chiffrement et de signature, quelles sont les problématiques justement?
Donc, on a les bonnes façons de faire le chiffrement ou faire la signature, c'est-à-dire on a des bons algorithmes comme RSC et AES. La difficulté vient dans comment je vais les mettre en œuvre. C'est-à-dire, j'ai par exemple un bloc de données que je veux chiffrer. Comment je vais formater le bloc pour le mettre dans l'algorithme RSC pour le chiffrer? Et il se trouve qu'il y a une façon de le faire qui est très très répandue, qui repose sur une standard créée par la société RSA elle-même, la société qui a commercialisé l'algorithme, qui s'appelle PKCS1 version 1,5. Donc c'est un peu difficile à dire, mais c'est le standard le plus utilisé. Bon, il se trouve qu'il y a une attaque qui est connue sur ce mode de chiffrement depuis 1998. Mais quand même, ce mode de chiffrement est utilisé partout. Mais les gens n'arrêtent pas de trouver des façons d'exploiter cette faiblesse, cette attaque. Cette année, en 2016, en mars, on a trouvé une nouvelle attaque sur le protocole de chiffrement TLS, c'est-à-dire le protocole qu'on utilise pour HTTPS, qu'on utilise partout. C'était la fameuse attaque Drown. Et en fait, cette attaque Drown reposait sur cette faible mode de chiffrement PKCS1,5. Donc c'était une attaque qui a été connue depuis 1998 et chaque fois on a mis en place des contre-mesures, des façons d'éviter l'attaque et quelqu'un trouve qu'en fait ces contre-mesures ne suffisent pas, on trouve encore une façon de passer à côté et exploiter l'attaque. Donc c'est un peu ça, c'est la petite différence entre j'ai un bon algorithme, le RSA, et j'ai un vrai chiffrement d'un bloc de données qui marche bien et qui ne peut pas être cassé. C'est ce trou entre ces deux choses qui n'est pas très bien étudié, et c'est là qu'on trouve les problèmes.
Alors en ce qui concerne les valeurs numériques à usage unique.
Oui, c'est un gros sujet là. Donc beaucoup de cryptographie repose sur le fait qu'on va avoir une certaine valeur qu'on va voir une seule fois, et jamais utilisé après. Donc, dans ce cas-là, souvent, ce n'est pas nécessaire que cette valeur soit imprévisible. Ça peut être, dans certains cas, juste un compteur. Mais quand même, on trouve que les systèmes, il y a une sorte de confusion dans l'utilisation de l'API. Et les utilisateurs, les programmeurs de les applications, ils savent, ils n'ont pas vraiment compris comment il est important qu'une certaine valeur ne soit pas présentée une deuxième fois. Donc un très bon exemple de ça, c'est le mode qui a été utilisé pour la signature dans le PlayStation de Sony pour protéger les jeux. Donc l'idée là, c'était une sorte de DRM, une façon de faire que c'était que les vrais éditeurs autorisés par Sony qui peut faire des jeux qui marchent avec le PlayStation 3. Mais la façon qu'ils ont utilisée pour signer le contenu d'une cartouche pour mettre dans le PlayStation 3, utiliser une certaine façon de signature, le DSA, ou ECDSA plus précisément, pour lequel il y a une valeur qui doit être utilisée une seule fois. Vraiment, ça doit être utilisé une seule fois, parce que si on l'utilise deux fois, on ne peut pas que casser la signature et créer une signature qui n'est pas authentique. On peut en fait extraire la valeur de la clé privée. Et ça veut dire que je peux créer des signatures pour tous les jeux que je veux et je peux distribuer cette clé privée à tous mes amis et on peut tous faire des jeux et c'est la fin de DRM pour Sony. C'est exactement ça ce qui s'est passé en 2010. Mais le même problème de cette utilisation deux fois d'une valeur qui doit être utilisée une seule fois, on trouve assez souvent, on a eu des exemples cette année sur les implémentations de GCM dans TLS. Nous, chez CryptoSense, on a trouvé des problèmes dans un HSM utilisé par YubiKey dans le mode CCM. Donc il y a plein de petits endroits où on peut trouver le même type de problème.
On peut parler également des problèmes de configuration.
Oui, donc la configuration des protocoles, c'est un peu un sort de cauchemar pour les SSI. Donc on a des, tout le monde connaît le problème de configurer un SSL ou un TLS, il faut dire maintenant, d'un serveur HTTPS. Et ça fait des années maintenant qu'on a tous utilisé un certain outil qu'on peut trouver sur web qui s'appelle SSL Labs. C'est l'outil de Ivan Ristic qui est très très sympa. On peut taper le nombre d'une URL ou on peut taper un nombre de domaine d'un site web et voir une sorte d'analyse de la configuration de ce protocole TLS. Et ça a beaucoup aidé à monter l'importance de ce type de choses. Le problème, c'est que pour un RSSI, il a plein URL. Je connais un de nos clients qui a 27 000 URL à configurer par son HTTPS. Mais il a aussi des serveurs mail en interne, des serveurs IMAP et SMTP. Il a des serveurs SSH. Il a des serveurs IPsec. Et pour tous ces protocoles, on a beaucoup d'options de configuration. Dans un monde idéal, il y aura juste un seul protocole TLS qui est super bien bouclé et n'aura rien à faire. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de configurations à faire. Il y a des modes de protocole, des modes ce qu'on appelle des cipher suites, des choix de modes de chiffrement, modes d'échange. Il y a des certificats à mettre en place. Il y a des options de mettre ou ne pas mettre pour faire que certains protocoles ne peuvent pas passer ou ne pas passer. Et tout ça, il faut faire à l'échelle de 27 000 serveurs ou 27 000 URL. Bon, ce qu'on essaie à faire avec un de nos outils, qui s'appelle discovery.cryptosense.com, c'est un sort de SSL Labs, mais qu'on peut utiliser chez soi. C'est-à-dire, c'est un sort de VM que nos clients peuvent embarquer dans leur infrastructure à eux et avoir des tests qui sont faits régulièrement. Ils ont l'historique, ils ont les rapports, ils ont des alertes s'il y a un changement. Comme ça, ils peuvent gérer à l'échelle les 27 000 ou plus serveurs qu'ils ont à faire. Mais le problème de configuration, ça ne va pas partir parce qu'on va continuer à mettre des protocoles avec des options et on a beaucoup qui ne sont même pas couverts par notre outil. Mais c'est un peu ce notre roadmap d'essayer de faire.
Alors, mais sinon, il suffit de lire les guides de l'ANSI, non ? Ils ont fait un guide sur SSL, ils ont fait un guide sur SSH avec toutes les bonnes options à mettre.
Absolument. On connaît les solutions. La difficulté, c'est comment les mettre en œuvre à l'échelle et qu'est-ce que je vais faire si j'ai un petit truc embarqué pour lequel je ne peux malheureusement pas mettre la super bonne configuration de l'ANSI parce qu'il ne fait pas du certain mode de chiffrement ou il a une vieille clé dedans. Donc, je veux isoler une certaine zone de mon réseau où je peux communiquer qui est un peu faible, mais je sais que c'est dans l'interne. Donc, je me trouve à la fin avec une politique assez complexe. Mais c'est le problème de l'échelle. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne configuration. Pourtant, ça change. Parce que pendant beaucoup de temps, on s'est dit, par exemple, sur un serveur mail, bon, c'est mieux de mettre toutes les options, faire que tous les protocoles sont disponibles, plutôt que les restricter. Parce que si on a deux serveurs mail qui essayent de communiquer ensemble, et ils n'arrivent pas à négocier un bon échange TLS, le fallback, la position derrière, c'est qu'on ne fait pas de chiffrement du tout. D'accord ? Donc on s'est dit, OK, bon, ça sera mieux quand même de laisser toutes les options ouvertes sur le serveur mail. Et comme ça, au pire, on va avoir un horrible échange SSL V2 et à la fin, un tout petit chiffrement dead simple. Mais c'est quand même mieux que rien. Mais puis, on a découvert cette année avec Drown, l'attaque que j'ai déjà citée, l'attaque sur le PKCS 1.5, qu'avec la mauvaise chiffrement, je peux attaquer le bon chiffrement. C'est-à-dire que je peux utiliser la mauvaise implémentation de SSL V2 d'attaquer une très bonne échange SSL TLS 1.2. Tu vois? Donc c'est assez complexe. Donc ça a fait qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient plonger dans leur configuration, trouver où ils ont lassé le SSL V2 sur un mail, un IMAP, un SMTP et le couper. Et ça change tout le temps, donc c'est pas aussi simple que ça aurait pu être.
Là où ça devient vraiment compliqué, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas appliquer stricto sensu le best des bonnes pratiques de la cryptographie parce qu'ils ont des historiques à gérer, des applications qui doivent communiquer. L'exemple du SMTP, c'est un bon exemple. Est-ce que je choisis d'être strict et de refuser des connexions ou est-ce que je dois être plus laxiste et m'exposer à du risque ? Et en plus, il y a cette idée que la crypto, c'est un peu comme des Legos où on accumule les couches les unes sur les autres. Sauf que les hypothèses de sécurité formulées par les cryptographes qui sont théoriciens, qui travaillent dans un monde algébrique, Elles doivent être respectées par les gens qui font le protocole. On l'a vu que les gens qui ont fait le web n'ont pas réussi à le faire. Ensuite, le protocole il doit être implémenté par des développeurs qui connaissent assez bien la crypto pour ne pas introduire de failles. Ça reste encore à voir. Et cette crypto, elle est packagée dans des librairies qui doivent être déployées, intégrées par des développeurs qui ne sont pas des spécialistes en crypto, qui ne connaissent plus rien des hypothèses faites par les cryptographes, et configurées par des sysadmins qui, dans le meilleur des cas, ont des guides de configuration et qui, dans la plupart des cas, s'arrêtent quand ça marche. Quelque chose marche, c'est bon. Ça a été bien résumé, il y a Matthew Green, qui est un cryptographe américain, qui a dessiné ça sous une forme de pyramide. Parce qu'en plus, à chaque étape, on a de plus en plus de monde et de plus en plus de chances de faire des erreurs. Cryptographe tout en haut, les gens qui font les protocoles un peu en dessous, les développeurs spécialisés en crypto en dessous, les intégrateurs en dessous, et, et tout en bas de la base de la pyramide, on a les sysadmins. Donc c'est vrai que gérer, détecter les mauvaises combinaisons à grande échelle, sachant qu'on ne peut pas toujours appliquer le meilleur des configurations, c'est certainement utile. Encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre.
Oui, c'est une excellente description du problème, Christophe. Je pense que c'est exactement là. C'est le trou entre la théorie où le bon algorithme a été prouvé correct par quelqu'un dans un modèle algébrique et la vraie mise en œuvre où le rubber hits the road, le vrai déploiement qu'on veut intervenir chez CryptoSense pour aider nos clients.
Alors, une problématique qu'on n'a pas évoquée, c'est l'interaction dans les opérations crypto.
Oui, ça c'est un phénomène qu'on voit partout dans la sécurité, pas que dans la cryptographie. C'est, je peux avoir une opération A qui est tout à fait sûre, et je peux avoir un deuxième B qui est également extrêmement bien défini et ne va pas créer des problèmes. Mais si je fais A et puis je fais B, j'ai un gros problème de sécurité. Donc un bon exemple qu'on aime bien citer de ce phénomène, c'est les opérations qu'on peut avoir sur un HSM spécifique au monde financier, c'est-à-dire le monde de distributeurs billets et transactions électroniques type payment carte bleue. Donc là, un grand problème, c'est de prendre un HSM qui peut servir pour toutes les fonctions dans le réseau et le configurer avec que les opérations qu'il faut pour un certain endroit. Il y avait une attaque pour laquelle les détails sont sortis en 2008. C'était une attaque sur le réseau de RBS WorldPay Atlanta, Georgia, aux USA. Et là, les attaquants, ils ont trouvé un HSM dans une data center, dans un centre d'hébergement des serveurs, où deux fonctions ont été laissées ouvertes. Une fonction qui permettait de chiffrer un PIN donné et une autre qui permettait de traduire un PIN qui arrivait sur un format qui était exactement le même qu'un PIN chiffré. Donc ça permettait de créer une sorte de codebook, c'est-à-dire une liste des 10 000 paires plain text, c'est-à-dire un PIN 0000, 0001, et le ciphertext, le chiffrement de ce plain text à côté. Donc, pour faire l'attaque sur les code PIN, ils avaient juste à regarder les signaux qui passaient sous le canal, mettre en place le codebook et dire ouais, voilà, tiens, c'est le PIN 1, 2, 3, 4, quel que ça soit. Et puis, avec 45 PIN, ils ont pu extraire plus de 8 millions de dollars du réseau par les méthodes habituelles, c'est-à-dire de créer des cartes avec bandes magnétiques, les distribuer à certains gens mondialement pour faire le cash-out dans une manière synchronisée, et ça a pas mal marché. Donc, on trouve pas mal de ce type de choses. Une API où il y a certaines fonctions qui sont très bien conçues et très bien faites, mais c'est les combinaisons entre les fonctions, les disponibilités de plusieurs fonctionnalités qui fait l'attaque.
C'est intéressant ça, les problèmes d'homogénéité. L'homogénéité, deux modules séparés sont intègres et parfaitement secure. Le simple fait qu'ils marchent ensemble, il y a un trou de sécurité. Il y a énormément de gens qui oublient ce problème d'homogénéité, et notamment dans les systèmes de test.
Bah, c'est aussi l'histoire du web, hein, parce qu'à l'époque du web, il me semble que l'intégrité était basée sur un CRC, donc en fait, tu pouvais compenser le CRC et modifier le chiffré sans connaître la valeur. Donc tu pouvais injecter des paquets valides sans avoir la clé en gros. Enfin, c'est des problèmes assez récurrents. Mais bon, en Suisse, on n'est pas concerné parce que les cartes bleues ont 6 chiffres sur le PIN, donc c'est plus secure.
Et enfin, on peut parler des algorithmes faibles.
Oui, donc ça, quand les gens parlent d'une attaque sur la cryptographie, je pense que ce qu'ils ont en tête pour la majorité du temps, c'est l'idée qu'un brillant chercheur, quelque part, va trouver une faille dans un ES ou trouver une façon de factoriser une clé RSA dont on n'avait pas connaissance avant. Et ça, c'est le plus rare. Hein. Donc, c'est très, très rarement ça qu'on trouve l'utilisation des algos très, très faibles chez nos clients. Mais quand même, à l'échelle, on peut trouver dans une application cachée quelque part une toute petite utilisation d'une algorithme faible qu'on n'a pas testé, donc on ne savait pas qu'elle était là. Et on a eu un très bon exemple de ça avec un test chez un client il y a quelques semaines. C'était une bibliothèque d'interface utilisateur graphique qui a embarqué dans pas mal d'applications web dans le framework de Oracle, de WebLogic, qui est pas mal utilisé pour les applications type, disons, industrielles en Java. Et là, on peut dire, OK, donc il y a une faible cryptographie dans une interface utilisateur. Donc, ça ne sert à rien, ça ne va rien faire. Mais en fait, l'utilisation de la cryptographie, c'était pour chiffrer dans un string, dans le URL, une commande qui sera interprétée par l'interface utilisateur comme une vraie commande dans ce qu'il appelle l'expression language de Oracle. Et donc, ça correspond à peu près à une sorte de remote code injection. On peut mettre ce qu'on veut dans cette petite partie du string dans le URL et faire que ça soit exécuté par l'application. Pas que par la petite bibliothèque interface utilisateur, mais par l'application tout court. Donc, toutes les ressources qui sont disponibles dans l'application deviennent disponibles pour l'attaquant. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et c'était du simple test de 56 bits, mais pas que ça, c'était aussi que la façon dont ça a été chiffré a permis ce qu'on appelle un padding oracle d'obtenir la valeur du chiffrement. Donc, ça a permis une vraie manipulation. Donc, on a donné cette faille aux gens qui maintiennent la bibliothèque. Qui s'appelle Prime Faces. Ils ont fait une nouvelle version, le 6.0.6, mais il faut vraiment se mettre à jour parce que ce truc-là, c'est assez dangereux. Et c'est un bon exemple de où on attendait pas de voir la cryptographie. On aurait pu facilement faire une application avec Prime Faces et dire, ouais, moi, je n'utilise aucune cryptographie, pas du tout. Mais en fait, il était bien là, mais caché dans la bibliothèque.
Mais les auteurs de cette bibliothèque, tu les considères comme des développeurs du dimanche ou comme des spécialistes qui auraient dû ne pas faire cette erreur ?
Je dirais qu'ils ne sont pas du tout des spécialistes de chiffrement. Ils sont vraiment dans le monde de UI et de graphisme. Et le code qu'on a vu là, en fait, on a googlé pour le petit peu de code parce que c'est une bibliothèque open source où ils ont fait ce chiffrement. Et on a trouvé sur un site web qui donne des petits cours en Java, comment faire certaines choses qui datent des années 90. Et je crois que probablement, ils ont juste fait un copier-coller de ce truc. Ils ont mis dans la bibliothèque et c'est comme ça qu'ils ont été eus.
Je suis sur le site et donc il y a juste une pull request en date du 11 octobre sur GitHub où il corrige le truc. Mais s'il n'y a pas de CVE à signer, tu peux être absolument certain que personne ne passera le patch.
Oui, c'est vrai qu'il y a il s'appelle SourceClear, je pense, une société qui spécialise dans les faiblesses dans les bibliothèques open source, mais ils n'avaient pas du tout traqué ce problème et c'est justement parce qu'il n'y avait pas de CVE enregistré, il n'y avait rien du tout, donc on peut facilement ne pas savoir.
Alors, tu nous as parlé de l'usage pour scanner sur du réseau des protocoles, où là on parle de types d'applications. Moi, je suis un responsable d'une entreprise. Qu'est-ce que j'ai comme produit à acheter, en fait ?
Voilà, c'est exactement ces deux produits qui sont nos produits phares, si vous voulez. L'un qui s'appelle discovery.cryptosense.com, qui est le sort de SSL Labs++, qui permet à scanner les protocoles en interne et gérer des scans réguliers. Et puis, on a ce qu'on appelle notre analyzer. Bon, ça, c'est analyzer.cryptosense.com, qui est notre plateforme d'analyse pour les applications. Et ça fonctionne dans le mode suivant. On télécharge une toute petite agent Java qu'on va attacher à notre application pendant que ça tourne. Ça va faire une trace de toutes les opérations entre l'application et la bibliothèque Java Crypto, ou Bounty Castle, ou quel que ce soit qui fait la fourniture de ces algos. Puis on va charger la trace à notre plateforme et c'est là qu'ils vont tourner tous les algos d'analyse qui sont des algos assez sophistiqués pour tracer les clés dans les keystores, etc. Mais aussi des algos tout simples qui vont voir s'il y a des algos, l'utilisation des algos cassés type MD5 ou DES dedans. C'est une vraie combinaison des choses. Ils ont à peu près une quarantaine de règles d'analyse de ce type. Et à la fin, on va avoir une sortie qui ressemble fortement aux sorties des outils analyse statique ou dynamique où on fait une sorte de sémaphore des choses qui ont été trouvées selon notre estimation de la criticalité. Et on peut voir aussi le stack trace pour voir d'où viennent les appels qui ont créé le problème.
C'est des produits qui sont destinés aux RSSI ou c'est des produits qui sont destinés aux éditeurs ? Enfin, tu parles de Bouncy Castle. Ouais. S'il y a un problème dans Bouncy Castle, c'est pas forcément le RACCI du coin de la rue dans sa banque qui va faire la correction. Quoi.
C'est très très rarement qu'on trouve des problèmes dans les bibliothèques. C'est plutôt la mauvaise utilisation de la bibliothèque crypto par l'application qui est le problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas du tout des problèmes dans les bibliothèques, mais c'est très rare. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs à MIT où ils ont pris tous les CVE de la catégorie mauvaise utilisation de la cryptographie. Ils ont essayé de catégoriser et eux, ils ont dit que c'est 17% des failles qui sont dans les bibliothèques, type Heartbleed ou GoTo, Fail ou ce type de failles dans les bibliothèques, et 83% qui sont dans les applications. Donc, c'est-à-dire que je prends une bonne, belle bibliothèque cryptographique, mais je fais une mauvaise gestion de clés, ou je fais une mauvaise paramétration, j'utilise un nonce de fois, ou je fais quelque chose de mauvais dans l'utilisation de la bibliothèque. Et c'est plutôt ça qu'on est créé pour trouver avec l'analyzer CryptoSense.
Mais il n'y a pas des bibliothèques qui sont meilleures que d'autres, parce qu'il y a eu pas mal d'initiatives récemment avec Libsodium,
Cryptography.io,
etc. Il y a quand même une promesse à un moment. Même en Go, apparemment, si tu utilises Lib standard, tu risques pas grand-chose.
Il y a toujours les recherches dans les API qui sont bien sécurisées. En fait, moi, avant de créer CryptoSense, j'ai publié deux papiers sur le sujet. Comment créer une API pour laquelle on peut prouver des propriétés de sécurité quelle que soit l'application. C'est une sorte d'idiot-proof API. Donc, on va faire quelque chose qui est impossible de faire une mauvaise utilisation. Mais ma conclusion, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire une API qui est complètement 100% idiot-proof. Il y a toujours une façon de faire un mauvais pas. Et il y a pas mal de clients qui essaient d'ajouter une couche autour, par exemple, de la bibliothèque Java pour éviter les plus mauvaises choses. Et c'est une excellente idée. Mais il y a toujours une situation où un développeur se dit « Ah, moi, j'ai besoin de cette clé-là pour faire autre chose avec. Donc, je vais juste passer par l'API, reprendre la clé et faire une petite opération ici. » Donc, avec notre analyzer, on peut trouver ces erreurs aussi. Donc, je pense qu'on a toujours quelque chose à faire, même si l'API est assez bien conçue. Il ne faut pas nécessairement que l'API soit aussi merdique que l'API libcrypto, qui est le truc qui est en dessous de libssl, pour qu'on trouve des choses intéressantes.
Mais donc, c'est super facile. C'est super facile à faire, un analyzer. Il suffit de regarder si le développeur a fait sa propre crypto et on sait qu'il y a une faille directement.
Là, c'est un truc qu'on essaie de passer le message depuis 20 ans. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire un hand-rolled crypto, de l'implémenter. Et je pense que finalement, ça a pas mal passé. Hein. Donc maintenant, on se trouve à la prochaine niveau. Il faut éduquer les programmeurs. Comment bien utiliser une API crypto bien fait?
Bah sur les deux derniers points, quand même, c'est d'abord éduquer les développeurs, c'est un travail de fond. C'était Manicott de l'OWASP, je crois, qui avait fait une étude en cherchant dans Google sur les problèmes les plus courants, quelles étaient les recommandations qu'on trouvait, et systématiquement, les recommandations avaient des failles sur la crypto, c'était des vecteurs d'initialisation statique, des clés incorrectes, etc.
Sur Stack Overflow et ce genre de plateforme. Mais
oui, mais Google renvoie vers Stack Overflow quand on pose des questions de dev. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'API catastrophiques. Il y avait un papier il y a quelques années qui était The Most Dangerous Code in the World, qui avait audité des applis sur Android et qui montrait qu'énormément ne faisaient pas de vérification de certificat parce que dans les exemples qu'ils avaient trouvés sur l'utilisation de libcurl, il y avait une ambiguïté sur le paramètre de vérification des certificats qui était 0, 1, 2. 0 ne vérifie rien, 1 vérifie juste la signature, 2 vérifie vraiment le certificat. Pour trouver ça, il faut vraiment être tordu. Et je ne parle même pas des API de OpenSSL qui sont, je ne sais pas comment qualifier ça, mais qui sont horribles et mal documentées. Et qui sont les plus utilisées parce que c'est la librairie qu'on est sûr de trouver partout en termes de dépendance.
Oui, tout à fait.
Il y a un chemin à faire qui est monstrueux.
Il nous faut une norme sur l'ergonomie des API, des bibliothèques. Et puis interdiction de mettre sur GitHub une API qui ne respecte pas la norme d'ergonomie pour que le développeur entrée de gamme sache programmer correctement. Waouh !
Non, je pense qu'il faut plutôt de la formation aux développeurs, non, Hervé ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Écoute, Christophe en a fait énormément, alors il a certainement une opinion sur le sujet.
Ah, il y a beaucoup de mauvaise documentation, et puis les gens sont pas... Enfin, c'est clairement, un développeur de bibliothèque crypto... Il va faire les erreurs classiques, il y aura toujours des side channels ou des choses comme ça. Mais quelqu'un à qui on demande de faire une application de gestion, une application web, il ne devrait pas avoir à se poser de questions de crypto. Il devrait pouvoir copier-coller depuis le manuel, comme dans toutes les autres API, et ça devrait fonctionner. Et les manuels ne sont mal écrits.
toute l'histoire de l'IoT, des protocoles Bluetooth et autres, c'est que les gens refont de la crypto parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de CPU, pas assez de mémoire, donc il faut qu'ils refassent leurs propres algos, leurs propres algos de chiffrement, algos d'appairage et autres.
Et à chaque fois, c'est catastrophique.
Là, le fait qu'ils aient besoin de quelque chose qui fonctionne avec peu de CPU, qui consomme peu de batterie, on le comprend, mais il ne faut pas qu'ils le fassent eux-mêmes, il faut qu'ils le fassent faire aux spécialistes capables de programmer de la crypto, qui, eux, vont apprendre à tenir compte de la faiblesse du CPU ou de la batterie.
Je pense que pour faire un effort comme ça, pour faire quelque chose qui est une nouvelle implémentation crypto qui marche sur un environnement avec des contraintes de batterie ou de performance ou quel que ce soit, il y a un investissement qui sera fait. Donc, il y a une vraie temps et une validation à faire. Donc, on a tendance de faire quelque chose qui est general purpose, qui peut être utilisé pour plusieurs fonctions différentes. Et dès qu'on a une API cryptographique qui peut être utilisée pour plusieurs choses, on aura le problème des mauvaises combinaisons d'opérations ou des clés qui sont utilisées pour des choses qui ne marchent pas ensemble. Donc, on aura toujours besoin de former des développeurs pour comprendre un peu comment l'utiliser et puis de vérifier que l'API a été bien utilisée. C'est ce que j'ai comme hypothèse. C'est pour ça que j'ai été persuadé après mes recherches en API Idiot Proof qu'il fallait cette solution à la fin, qu'on ne va jamais pouvoir dépasser.
Enfin, y a déjà des trucs qui existent. Hein. Par exemple, la NSA a publié des algos qui s'appellent Spec ou Simon, ou même XXT, qui est finalement est pas si cassé que ça. C'est des algos qui savent faire du chiffrement par bloc pour de l'IoT sans problème. C'est juste que les gens ne les utilisent pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Quoi. C'est oui, comme les gens qui utilisent Serpent ou Camellia ou ce genre d'algorithme un peu plus obscur. Personne ne va aller s'aventurer là-dedans. Quoi.
Oui, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas un problème d'algorithme à la fin. C'est la mise en œuvre, c'est le trou entre le super bien algorithme qui ont été bien faits par un brillant chercheur NSA et la vraie mise en œuvre, l'utilisation par le pauvre programmeur qui doit faire, je ne sais pas, une réveil connecté, quel que ce soit, qui marche bien avec une bibliothèque sur laquelle ils n'ont jamais programmé. Donc, c'est plutôt ça le problème.
Bon, quitte à troller jusqu'au bout, est-ce qu'il faut avoir des suites cryptographiques FIPS ou est-ce que ça ne sert à rien?
Question très intéressante. Si on veut vendre un produit quelqu'un aux US, oui, ça aide à avoir un produit FIPS. Sinon, je pense qu'il y a des algos, justement, la suite Dan Bernstein, par exemple, on peut utiliser qui est au moins aussi bien que la suite FIPS.
Bon, Hervé, en conclusion.
En conclusion, moi je pense qu'il faut tester les suites crypto et donc ce que propose CryptoSense c'est intéressant, alors même si évidemment ça ne s'adresse pas à tout le monde et à tous les RSSI. Après, bon, quand on audite des applications, eh bien, on trouvera toujours des problèmes, c'est pour ça qu'il faudra toujours des auditeurs. Peut-être qu'un jour il y aura des logiciels miracles qui auditeront à notre place, puisque maintenant il y a des logiciels qui arrivent à créer des nouveaux algorithmes cryptographiques que l'humain ne comprend pas quand on a deux machines l'une contre l'autre arbitrées par une troisième. Et donc peut-être qu'à l'avenir ce type de discussion n'aura pas lieu, ou alors aura lieu entre robots qui s'amuseront à discuter du sujet.
Et Graham, le mot de la fin ?
Mot de la fin, viens nous voir à discovery.cryptosense.com et jouez avec le site. Et dites-nous ce que vous en pensez.
Ok.
Bon, on peut chercher des XSS et des trucs. Vous avez un bug bounty sur le site ?
Oui, bah, pourquoi pas. Hein. Un bug bounty, c'est une pinte dans une pub anglaise à Paris.
Ok, bon bien. Voilà, c'est dit. Bon, eh bien, Graham, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous tous.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous.